Moi, je suis Daniel Henquin, physicien, chercheur au CNRS, au laboratoire Flamme, physique des lasers, atomes et molécules de l'INSEE de Lille.
Alors, je ne suis pas trop étonné de vous voir ici, dans ce lieu où sont présentées à la fois des expériences, mais aussi des connaissances autour des sciences, mais aujourd'hui plus précisément autour de l'eau, voire même des ondes.
Exactement, oui. L'eau est une onde et il n'y a pas que l'eau qui est une onde, il y a plein d'ondes. On est même noyé dans les ondes électromagnétiques notamment, la lumière, le son. Donc, les ondes sont omniprésentes, ça c'est sûr. Les ondes de pression, donc le son en l'occurrence, se propagent très bien dans l'eau, et même mieux d'ailleurs dans l'eau que dans l'air, plus rapidement, en étant peut-être moins atténué, peut-être parce qu'il y a moins d'obstacles, mais aussi parce qu'il y a moins d'altérations. Et donc, alors c'est pas ma spécialité, mais oui, je sais qu'il y a des animaux qui peuvent se parler à des distances beaucoup plus importantes que nous on le fait et que les sons qu'on peut percevoir, même s'il y a des conditions parfois dans l'air où les ondes se propagent particulièrement bien et où on peut parfois entendre des conversations à plusieurs kilomètres. C'est quelque chose qui est connu au Canada, ça, quand l'air est particulièrement froid et sec, le son se propage très 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 loin en fait.
Et puis avec les ondes dans l'eau, on peut mesurer des distances, les sonars par exemple.
Alors tout à fait, utiliser les ondes d'une façon générale pour mesurer des distances, c'est quelque chose qui est très répandu, que ce soit les ondes sonores avec les sonars, mais l'air de rien, il y a une autre application où on ne mesure pas les distances, mais on utilise les distances pour représenter des images, c'est l'échographie. C'est exactement la même chose. On envoie des ondes sonores dans un milieu qui est quand même essentiellement aqueux, hein, le corps humain, et on regarde ce qui revient. Et ce qui revient avec du retard, c'est que c'est allé plus loin, et on peut comme ça reconstituer le relief et donc la géométrie, enfin ce qui est à l'intérieur du corps humain. Le radar, c'est exactement la même chose, avec des ondes électromagnétiques cette fois. C'est le même principe, hein, le sonar, le radar. On envoie des ondes, donc des ondes sonores dans l'eau pour le sonar, des ondes électromagnétiques dans l'air pour le radar. On mesure combien de temps ça met pour revenir, et c'est comme ça effectivement qu'on mesure la distance. Et puis la déclinaison la plus moderne de ça, c'est le LIDAR avec un laser. Et par exemple, on a en France, sur le plateau de Calerne, du côté de Nice, une station de télémétrie Terre-Lune qui mesure régulièrement la distance entre la Terre et la Lune avec un LIDAR, avec un laser qui regarde. La Lune, en gros, c'est 400 000 km, hein, donc c'est un peu plus de 2 secondes l'aller-retour. Et donc, il mesure avec une grande précision le temps d'aller-retour de la lumière entre... Là, pour le coup, c'est de la lumière visible, c'est du vert en plus, donc c'est joli. il mesure le temps d'aller-retour entre la Terre et la Lune. Et ils peuvent comme ça connaître avec une précision de quelques centimètres la distance de la Lune. Alors ça peut sembler un peu bizarre de vouloir avoir une telle précision pour mesurer la distance de la Lune, mais en fait ça permet d'affiner et d'avoir donc une représentation extrêmement précise de l'orbite lunaire. Alors on dit toujours que les planètes font une ellipse autour du Soleil, que la Lune fait une ellipse autour de la Terre. Mais en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Et en fait, les trajectoires réelles donnent des informations sur l'astre lui-même et notamment sur sa composition. Par exemple, grâce à ces mesures, on sait maintenant que le cœur, le noyau de la Lune est liquide. Voilà, parce qu'effectivement, comme un noyau liquide bouge à l'intérieur, et donc il perturbe la trajectoire.
Alors quand on dit liquide, effectivement, il y a des métaux qui peuvent être liquides à une certaine température et pression.
Oui, tout à fait, oui. Oui. Alors en plus, hein, quand on dit liquide, c'est pareil quand on dit que le cœur de la Terre est liquide. Honnêtement, enfin... Vous voyez, la lave, déjà, c'est un liquide quand même qui est extrêmement visqueux et qui est déjà quand même beaucoup, beaucoup plus liquide que le manteau terrestre. Hein. Donc, oui, quand on dit liquide... Mais disons qu'il est, il n'est pas assez solide pour ne pas être déformable. Donc, il se déforme un peu et du coup, il impacte sur la trajectoire de la Lune. Voilà.
Alors, on peut peut-être parler des ondes lumineuses qui se propagent, j'allais dire, à vue. Donc, pour des gens qui ont un bateau à gérer et le cap à maintenir, avoir un phare, c'est, j'imagine, important. Question un peu stupide, est-ce que les ondes lumineuses qu'on voit au vu d'un phare, elles se propagent aussi dans l'eau pour des animaux qui seraient dans l'eau et qui pourraient aussi avoir je ne sais pas si ce serait des nuisances ou au moins des indications par rapport à ces phares.
Alors là, pour le coup, les ondes lumineuses, c'est exactement le contraire par rapport au son. Elles se propagent mal dans l'eau, elles sont très vite absorbées. Bon, il suffit d'aller en profondeur dans l'eau, hein, 10, 15, 20 mètres, et on voit très bien que la luminosité vraiment diminue vraiment beaucoup, beaucoup. Mais d'un autre côté, alors je suis pas biologiste, hein, mais il ne faut pas oublier quand même qu'on a en mer, y compris sur les fonds marins quand ils sont relativement élevés, quand ils sont relativement proches de la surface, on a des organismes qui se nourrissent, enfin qui font de la photosynthèse, donc qui se nourrissent de la lumière. Donc la lumière dans l'eau, c'est pas forcément une pollution. Alors la lumière d'un phare, honnêtement, je sais pas si c'est le genre de chose qui a déjà été étudié, mais déjà un phare, c'est pas permanent. Honnêtement, je pense que la lumière des phares est nettement moins polluante que la lumière de nos réverbères, là, des trucs qu'on utilise pour éclairer nos villes, qui diffusent un peu partout dans l'atmosphère. Un phare, c'est une lumière qui est quand même très directive. L'objectif, c'est qu'il soit visible du plus loin possible. Et donc, la lumière ne s'éparpille pas partout. Et, elle rentre forcément dans l'eau, mais avec un angle tel que finalement elle ne va pas très profondément, quoi, c'est ça que je veux dire.
Donc ici dans ce stand, on présente une lentille qui est très connue, la lentille de Fresnel, et qui sert depuis très longtemps, hein, au repérage avec ses phares, hein, qui sont en bord de mer en général. Est-ce que ce sont les mêmes lentilles qu'on retrouve dans des beffrois, par exemple celui de la mairie de Lille ?
Ah mais complètement, le phare... Peut-être que vous ne le savez pas, mais en fait, le beffroi de la mairie de Lille, c'est un phare. Alors ce n'était pas un phare maritime, c'était un phare aérien. Pour les avions. Il en existe d'ailleurs plus que deux en France, montés sur des bâtiments prestigieux, on va dire. Le deuxième étant celui de la Tour Eiffel. Voilà, les autres ont été détruits, ou alors il en existe encore un ou deux, mais qui sont montés sur des structures métalliques beaucoup moins... et plus fonctionnelles de toute façon, et moins prestigieuses, moins jolies, quoi, on va dire, et abandonnées, du coup. Mais oui, au début de l'aviation, exactement comme pour les marins, on utilisait des phares la nuit pour s'orienter. Et donc, il y a eu tout un pavage du territoire par des phares pour les avions, quoi, aéronautiques. Donc oui, c'est un phare avec une lentille de Fresnel. Avec une lentille de Fresnel, tout simplement parce que si on devait mettre une lentille standard, une lentille qui ne serait pas une lentille de Fresnel, eh bien on aurait un objet extrêmement lourd, extrêmement gros. Et alors, déjà, ce serait très compliqué à faire. Et en plus... ça déséquilibrait. Enfin, un objet très lourd en haut d'un phare, c'est pas forcément une bonne idée, quoi.
Est-ce que ces phares qui sont tout autour de nos côtes sont plutôt en état de maintien, voire même de l'activité, ou au moins de conservation en tant que bâtiment ?
Je crois qu'aujourd'hui, les amoureux des phares, on va dire, sont un peu inquiets parce que les phares ne servent plus à la navigation professionnelle. Maintenant, il y a le GPS, hein, il n'y a plus besoin de se repérer avec des phares. Donc les phares ne servent plus qu'à la navigation de plaisance et puis surtout dans les situations situation problématique, quelqu'un qui a un GPS qui tombe en panne ou qui n'a tout simplement... le phare est toujours là, mais en secours, on va dire. Donc oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se battent aujourd'hui pour que les phares soient maintenus et maintenus en activité. On a toujours nos grands phares. On a un peu plus de 200 phares, 200 grands phares en France. Ils sont toujours là, ils sont toujours en activité pour l'instant. Et j'espère qu'ils le resteront parce que c'est quand même super joli, un phare. Hein.